Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Chose Commune. Cette semaine, on parle vélo. Ça nous arrive souvent de parler vélo dans La Chose Commune et ça nous arrive régulièrement de parler vélo avec Vélo 41, association bien connue des Blaisoises et des Blaisoises. Je suis entouré de Christian De Blaise et Elisabeth Housset. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là. On vous invite cette semaine pour parler donc du baromètre vélo, étude publiée donc par votre association dans le cadre, j'imagine, d'une étude nationale sur la pratique du vélo et sur la cyclabilité des routes et des pistes sur le territoire français. D'abord, je vais vous laisser représenter évidemment Vélo 41 qui se lance.
Alors Vélo 41 est une association qui a maintenant pratiquement 25 ans et dont le but est de défendre la cause des cyclistes et la pratique au quotidien du vélo pour aller faire les courses, amener les enfants à l'école ou aller travailler.
D'autres activités sont aussi proposées par Vélo 41, on peut le rappeler l'ensemble?
Alors absolument, nous organisons tous les mercredis à partir de 17h30 un atelier vélo où nos adhérents peuvent venir réparer leur vélo. Nous récoltons, je dirais, les vélos qui nous sont donnés, nous les remettons aussi en état pour les vendre à un prix modique. Pour des étudiants ou des personnes qui ont peu de moyens. Un autre aspect de l'association, c'est la vélo-école. Et là, pour l'instant, c'est le mardi à partir de 14h, de 14h à 15h30. Et là, c'est de la formation vraiment pratique, à la pratique du vélo pour ceux qui n'en ont jamais fait ou des personnes qui veulent se remettre en selle. Et donc, particulièrement ouvert aux adultes sur ces horaires-là. On a aussi un petit créneau de vélo-école le samedi après-midi.
Elisabeth, vous êtes en charge de la vélo-école. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Quels sont les enjeux autour de la pratique ou de la remise en selle? Voilà, l'image est toute trouvée pour le vélo. Pour des adultes qui n'en ont pas fait ou qui voudraient s'y remettre ou qui ont eu peur
L'enjeu principal, c'est de gagner en autonomie, de pouvoir élargir son champ de déplacement au sein de Blois. Et voilà, il se trouve qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui n'ont jamais eu la chance d'apprendre à faire du vélo quand elles étaient plus jeunes et qui sont vraiment très volontaires pour apprendre à 30, 40 ou 50 ans. Et voilà, il se trouve que voilà, là on est face à un public alors très féminin. Il y a très peu d'hommes qui viennent apprendre, alors qu'on sait qu'il y en a qui ne savent pas faire de vélo.
Ouais.
Quoi.
Une question de fierté ou ce genre de choses, sans doute.
Quoi, voilà. Et là on est face à des femmes, pas toutes, mais qui pour certaines ont une volonté extraordinaire. Quoi. Là, et surtout même en période d'hiver, elles viennent...
De revenir réapprendre le code de la route, les bonnes pratiques cyclistes.
Oui, même le vélo, savoir...
Et même le vélo, oui.
Il faut vraiment voir leur joie quand elles arrivent à pédaler au bout de 3, 5 séances, ou des fois, parfois plus pour certaines, quoi, Vraiment...
Merci pour ce petit rappel sur la vélo-école. On a tendance à croire que c'est uniquement à destination des enfants et des scolaires, en l'occurrence. Pas du tout. Je voudrais qu'on donc parle du sujet pour lequel une invitation a été lancée par Studio Z régulièrement.
Tous les 2-3 ans,
voilà. Un baromètre vélo est édité et le baromètre 2025 vient d'être publié il y a quelques semaines. Et vous êtes l'association référente pour le Loir-et-Cher pour la menée de cette étude en local. Donc évidemment on va en reparler. Cette étude, elle est pilotée par la FUB. Est-ce qu'on peut la représenter aussi, Christian?
Alors oui, la FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette et qui regroupe toutes les associations, donc plusieurs centaines d'associations de toute la France, associations qui comme nous font la promotion du vélo au quotidien.
Donc c'est cette association-là qui pilote au national le baromètre vélo. Donc vous disiez tous les 2-3 ans une étude est menée. Et ben alors est-ce qu'on peut détailler un peu la méthodologie, quelles ont été dans les grandes lignes hein, les questions posées aux usagers, quelle a été la méthode de questionnement auprès des usagers et des usagères?
Alors le baromètre est une enquête qui était composée d'à peu près 26 questions sur 5 thèmes principaux. La sécurité de son déplacement à vélo, le confort de son trajet, les efforts de la commune, l'équipement de la commune et le ressenti général. Mmh. En plus de ces 26 questions, les personnes qui répondaient au sondage avaient la possibilité de pointer sur une carte les points noirs. Mmh. Donc ils pouvaient en pointer 3 de mémoire. Les points verts, c'est-à-dire que les points où la situation s'était améliorée.
Ouais, okay. Elle était bonne ou en voie d'amélioration.
Okay. Voilà. Et également les points bleus, là où il y avait des sujets de stationnement.
Mmh. Et après, pour que l'étude soit pertinente et la plus affinée possible, on a un classement selon l'importance des agglomérations, des villes,
oui,
etc.
Voilà.
Puisque bah, la cyclabilité de petits bourgs de campagne n'est pas la même cyclabilité que des grandes agglomérations comme Blois.
En gros, il y a un classement grande ville, mm-hmm. ville moyenne, bourg et village.
Mm-hmm. Ok. Alors, qu'est-ce que nous apprennent ce baromètre vélo de manière générale au national par rapport à 2021?
Alors, le classement ressemble un petit peu au Nutri-Score,
ouais.
Avec des lettres qui vont de A à G. Pour la globalité de la France, on est en E, donc j'irais moyennement favorable.
Ouais, au moins au milieu de tableau, mais en bas du milieu de tableau.
Voilà.
Quoi. Alors, question pour la France donc, qui est en E, est-ce que ce baromètre vélo, il est, alors, avec des méthodologies peut-être un peu différentes, mais édité un peu partout en Europe, et est-ce que la France peut se comparer sur sa cyclabilité, sur sa pratique du vélo avec d'autres qu'on est situé par rapport à d'autres pays européens? Voilà, c'est ça ma question.
Malheureusement, je ne pense pas.
Okay.
Par contre, ce qui est certain,
ouais.
c'est que c'est la plus grande enquête mondiale à propos de la cyclabilité des territoires.
Ouais.
En sachant que toutes les enquêtes précédentes, mmh. c'est-à-dire 2017, 2019 et 2021, était avec pour que les villes ou les villages soient qualifiés, il fallait plus de 50 réponses. Alors que là, ça a changé et les villages pouvaient être qualifiés à partir de 30 réponses de personnes qui participaient à l'enquête.
Donc en dessous de 30 réponses, les villes n'étaient pas prises en compte dans
exactement.
L'étude.
Okay. Exactement.
Et donc on n'a pas de moyen de comparer par rapport à d'autres pays. Notre classement.
Non mais il y a, dans d'autres pays, il y a également des,
oui,
des,
oui, des études, j'imagine. Ouais.
Par contre, il y a une forte disparité entre les grandes villes, mmh. au moins les grandes villes, les villes moyennes, et surtout les villages. Autant les grandes villes sont classées favorables ou très favorables, les villes moyennes, ça peut être plutôt favorable, et les villages sont moyennement favorables. Donc là, on voit que... Un effort serait encore à faire
pour les petites villes.
Voilà, mmh. exactement.
C'est dû, j'imagine, aux routes de campagne qui ne sont pas prévues pour les pistes cyclables.
Alors, il y a évidemment les routes de campagne, mais il y a aussi les centres-bourgs.
Okay.
Et les centres-bourgs avec très peu d'aménagements cyclables, mmh. très peu de bandes cyclables ou de prise en compte des, ne serait-ce que des voies parallèles qui pourraient être utilisées par les cyclistes. Enfin, bon, on reviendra peut-être sur ce point en détail.
Alors, ce qu'il faut aussi rajouter pour,
allez-y, Elisabeth.
Pour la crédibilité de ce baromètre, c'est que sur l'édition 2025, il a rencontré un succès important. Hein. On a quand même une progression de plus de 20% au national de contributions, et avec plus de 330 000 contributions.
C'est vraiment
ça commence
déjà à faire un bon
panel. C'est un très bel outil. Mmh. Hein, c'est un très bel outil. Et c'est vraiment une enquête de référence.
Et alors, même si donc on disait le classement est comme comparable à un Nutri-Score ou à un DPE pour les habitations, donc on est en E, mais la situation tend à s'améliorer. Est-ce que c'est une amélioration? Est-ce que c'est une tendance qui se poursuit, ou est-ce que sur 2017, 2019 et 2021, comme vous l'avez signalé, l'édition des précédents baromètres, ça baissait, ça stagnait, ça ondulait, ou est-ce qu'il y a une vraie tendance depuis 2017, là on a presque 10 ans de recul, est-ce qu'on est toujours en progression dans la pratique du vélo, dans la cyclabilité des routes et des rues?
Il y a bien une progression depuis 2017, ouais. Et régulièrement,
il n'y a pas eu de recul entre différentes phases d'études, entre différentes années. Ok. Eh bien, continuons à étudier ces résultats, avec quand même un chiffre que vous rappelez, hein, dans la présentation que vous avez faite et que vous avez diffusée, effectivement, sur les violences motorisées. Trois quarts des cyclistes ayant répondu à votre étude, hein, au national, ont déjà vécu au moins une agression physique ou un comportement intimidant. On voit que la pratique de la séparation et enfin la mixité de mobilité entre les voitures et le reste d'ailleurs, les véhicules motorisés et les cyclistes, a encore beaucoup de chemin à faire.
Absolument.
Ouais. Ça me fait penser à un récent reportage de complément d'enquête, je crois, qui revenait sur des accidents douloureux. Je crois que Vélo 41 se mobilise quand des cyclistes sont victimes de la route, et donc ça me faisait penser à ce complément d'enquête. Je crois qu'il est toujours disponible sur la plateforme du service public. Descendons par rapport au national et au régional, puisque on est capable d'affiner et de recentrer votre étude sur cette pratique. Donc on voit que la région elle aussi est sur la moyenne nationale, toujours en E, malgré donc toujours cette légère amélioration entre les deux études, notamment avec celle de 2021. Donc ça c'est bien, et toujours aussi une belle progression de participation. Donc ça veut dire qu'il y a évidemment de plus en plus de cyclistes qui pratiquent et qui sont capables de faire des remontées de leur trajet quotidien, vélo, travail, domicile, etc.
Avec 108 communes qualifiées pour l'ensemble de la région.
On voit qu'il y a une égalité de genre, donc autant de femmes que d'hommes qui répondent. Donc la pratique du vélo est une pratique assez mixte. Ça, c'est quelque chose que vous constatez aussi à Vélo 41. Alors, en dehors du cas de la vélo-école que vous citez, puisqu'il y a beaucoup de femmes, mais dans les ateliers de réparation, alors est-ce que pour le coup, peut-être en atelier de réparation, il y a plus d'hommes qui viennent, ou c'est pareil, c'est assez mixte?
Non, là, depuis un petit moment, je dirais même qu'on a plus d'adhérentes que d'adhérents. Donc non, c'est parfaitement mixte, et voire plus de femmes.
Et alors, donc sur la tranche d'âge, ça c'est quand même une donnée aussi intéressante, la 50% des répondants ont quand même plus de 45 ans. Donc ça, est-ce que c'est un motif d'inquiétude? Est-ce que les jeunes ont moins répondu? Est-ce que les jeunes font moins de vélo? Comment vous l'analysez?
On pense que les jeunes ont moins répondu.
Ouais.
Parce que même sur Blois, on verra ça plus tard,
ouais.
On a ce sujet-là.
Ouais. Parlons du Loir-et-Cher pour resserrer encore un peu l'entonnoir. Donc là, une belle progression, hein, puisque 17 communes ont pu être qualifiées pour rentrer dans l'étude. Elles étaient seulement 4 en Loir-et-Cher. Et qu'est-ce que vous pouvez dire donc de cette participation? Est-ce qu'il y a des disparités entre Blois et des petits bourgs? Comment on explique tout ça?
Alors, il y a des grandes disparités, hein,
ouais.
Mais si on regarde les indicateurs type Nutri-Score, on a une très belle réussite avec la commune de Fossé, mm-hmm. qui est arrivée la première dans les bourgs et villages, la première de la région centre, classée B, ainsi que Celles-sur-Cher et Vineuil. Ensuite, on a Saint-Gervais classée C. Et après, un gros paquet dans la ville de Blois, en D. Et on finit, on a la Chaussée Saint-Victor en E. Et on finit avec la Lanterne Rouge Romorantin.
Ouais.
Romorantin, où, avec une absence totale à la fois de politique cyclable. Et en plus, pour couronner le tout, très peu de transports en commun dans cette ville.
Donc là, il y a un vrai sujet
sur Romorantin. Il y a un vrai sujet.
Ouais. Ok. Et ça, vous le constatez, vous, Vélo 41, alors c'est pas votre, votre zone de travail. Est-ce que vous avez des relais associatifs, de collectifs écologistes ou de pratiques cyclables qui vous font ces remontées-là?
On en a eu, mais on en a moins sur Romorantin. On a plutôt sur le Controis,
ouais.
Et sur un peu sur Vendôme aussi, avec un partenaire tel que Dodame.
Est-ce que, enfin, je pensais notamment à eux, est-ce que la mise en place récente de la voie verte sur le Controis, le Romorantinais, pourrait jouer sur la prochaine étude, est-ce que vous l'espérez peut-être, que ça joue sur la prochaine étude qui sera faite dans 2 ou 3 ans?
Bah, en fait, avec la commune de Fossé qui a été la première de la région, je pense qu'une partie de ce très bon score est due à la voie verte entre Blois et Fossé.
Ouais.
Voilà. Et peut-être qu'il y a eu des efforts conséquents dans le centre du bourg, mais en tout cas, je pense...
La voie verte a joué un grand rôle.
Voilà, c'est ça.
Bah oui, évidemment. Et vous constatez une utilisation de cette voie verte? Vous le savez si elle est vraiment usitée ou...
Je crois qu'il y a une évaluation aux alentours de 40 cyclistes par jour,
D'une
façon régulière, donc pratiquement de domicile travail.
Des gens qui s'y sont vraiment habitués à faire ce trajet en vélo.
Et de la même façon, on a des chiffres à peu près à 80 personnes entre Blois et Molineux, puisque on a une voie verte aussi du département, et même chose, 80 personnes je crois entre Blois et Sélette, puisque elle est celle-ci aussi toute nouvelle.
Ce qui fait quand même malgré tout aussi une belle continuité entre Sélette sud-ouest et puis Fossé nord, on va dire.
Tout à fait.
Donc effectivement, ça fait une belle continuité.
Les voies vertes, du coup, c'est ce type d'aménagement, c'est le rôle du conseil départemental. Donc nous, on les pousse, on a des réunions régulières avec le conseil départemental. Et là, ce qu'on vous pousse le plus, c'est d'obtenir une voie verte pour relier Blois à Montpré-Chambord.
Ok, ouais, avec le rond-point qui partirait du rond-point de la Patte d'Oie.
Eh bien, pas forcément, parce que si, en arrivant sur le rond-point, on ne peut plus rien faire en tant que cycliste. Donc, c'est plutôt à travers le centre commercial, à travers, un peu la forêt pour relier.
Donc, à cheval sur Saint-Gervais, Vineuil et récupérer cette grande route.
Exactement.
Voilà. Très bien. C'est donc un de vos projets en tant que porteur de ces initiatives.
Oui, enfin, c'est ce qu'on pousse. Après, il faudrait que...
C'est votre projet à vous. Ça ne veut pas dire que c'est le projet le projet politique. C'est bien de le préciser. Donc, les répondants sur Blois, pareil, hop, l'entonnoir se resserre. Donc, on voit que Blois, alors la moyenne au national est de E, on le rappelle. La moyenne sur le Blaisois est de D. Donc légèrement au-dessus, avec là toujours une participation en hausse et une amélioration des services qui ont été et des voies qui ont été notées.
Donc, plus 45% en termes de participation, une note de D pour Blois, autant de femmes et d'hommes qui ont répondu, et une fréquence dans les répondants, parce que ça faisait partie aussi des questions qui étaient posées, une grande majorité qui pratiquait vraiment plusieurs fois, notamment une à trois fois par semaine à 37%. À plus de 80, pratiquement 80%, une à trois fois par semaine, le vélo par...
Pour leur déplacement.
Et donc tous les indicatifs sont au vert, entre guillemets, en tout cas en termes de progression sur Blois, même si on reste donc sur un milieu de tableau, le tableau va de A plus même à G, donc Blois étant en D, on est vraiment au milieu du tableau. Par contre, tous les indicateurs ont progressé entre cette étude et la dernière de 2021, que ce soit donc en service de stationnement, en confort, en ressenti global. Donc effectivement, il y a une
ressenti en progression et voilà, le réseau d'itinéraires cyclables est jugé en progrès. Se déplacer est estimé plus agréable, mais attention, l'usage du vélo est quand même considéré comme réservé à certaines catégories.
Ouais, il y a un vrai, il y a un enjeu, on va dire économique, sociologique à la pratique du vélo en Blois.
Non, il y a un enjeu de sécurité. On a des populations qui n'osent pas prendre
le vélo,
entre autres pour les enfants et les personnes un peu âgées, qui estiment que c'est dangereux de circuler à vélo.
Avec une note de F, donc vraiment très
oui, il y a un ressenti sur la sécurité de rouler à vélo qui reste médiocre, hein, vous
précisez. Traverser un carrefour ou passer un rond-point, c'est aussi jugé dangereux. Et il est toujours difficile de circuler en sécurité sur les grands axes, donc ça c'est vraiment des...
Sauf où le ressenti est là plutôt positif, hein, on sait dans les rues résidentielles, ou dans les rues à double sens cyclable ou ce genre de choses, là, dans ces rues-là, il n'y a plus de problème, on ne constate plus de problèmes de sécurité, de cyclabilité.
Voilà, c'est jugé agréable. En plus, il y a pas mal de zones... résidentielles qui sont passées à 30 km/h.
Sur les doubles sens cyclables, est-ce que les usagers, les usagères se sentent en sécurité quand une voiture arrive en face d'eux dans une rue où cette pratique est autorisée, réglementée ?
Dans cette enquête, ce qui ressort, c'est que les doubles sens cyclables, ils ont bien été identifiés et ils sont appréciés, parce qu'il y a une question qui a été posée où là on arrive à un score de A. Pour les cyclistes, effectivement, il peut y avoir parfois des rues qui sont en double sens cyclable, qui sont très étroites, où soit la voiture s'arrête, soit le cycliste se gare, quoi. Mais d'une manière générale, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'accident.
Et c'est toujours moins dangereux de voir une voiture devant soi que d'avoir une voiture derrière
vous doubler.
Exactement. Et en sachant qu'au niveau national, il n'y a eu aucun accident mortel dans les doubles sens cyclables. Donc alors que dans les rues classiques, on a des taux d'accident quand même importants.
Est-ce que les efforts d'Amblois au niveau de la rue du Bourgneuf ont été appréciés? Est-ce que cette nouvelle configuration de la rue du Bourgneuf est appréciée? Il y a eu vous avez eu des remontées?
Justement, les personnes, les contributeurs à ce baromètre ont pu cocher les endroits où la situation s'était améliorée.
Et ça fait partie
dans la rue du Bourgneuf, ça fait partie d'un
des points bleus
d'un site ouvert.
Donc là on trouve ce qui a été noté comme un cluster, donc un nombre de points verts, donc jugé favorable. Les travaux ont été jugés favorables dans la rue du Bourgneuf. Néanmoins, toujours dans la rue du Bourgneuf, on a quand même 4 points rouges, c'est-à-dire qu'on a un petit peu des personnes qui, malgré les travaux, ne se sentent pas totalement en sécurité. Et ça, la preuve en est, c'est qu'on a une piste cyclable montante et dans le sens descendant, on est avec les voitures. Et on a quand même un certain nombre de personnes qui prennent en descendant cette piste cyclable, ne se trouvant pas en sécurité au milieu des voitures dans cette rue qui est maintenant pas très large. Une voiture ne peut pas doubler ou alors à force passage.
Là, maintenant, concrètement, on peut plus faire grand chose pour améliorer cette sécurité. Les éléments sont tous en place. C'est des gens qui continueront à se mettre à gauche de la voie pour descendre la rue du Bourgneuf.
Tout à fait. Globalement, mis à part ce point de détail, l'ensemble des travaux, aussi bien rond-point Médicis, le pont du Cosson en direction de Saint-Gervais ou les travaux autour de la Bouillie, là, au niveau du parc des expositions, tous ces travaux ont été vraiment très bien notés par les cyclistes.
Tous ils ont été repérés en vert. Donc,
On en vient à un autre résultat aussi, donc les services et stationnements sur Blois. J'imagine que ça vous fait plaisir quand vous voyez que réparer son vélo est extrêmement bien noté. Vélo 41, vous êtes quand même la structure très bien identifiée qui permet ça. Est-ce que ça fait plaisir, hein? J'imagine qu'on pense à vous quand... Alors moi j'ai pensé à vous,
certaine,
en tout cas.
Je ne suis pas certaine qu'on pense à nous, je pense qu'on pense plutôt aux réparateurs. Il y a pas mal de réparateurs sur Blois, plusieurs.
Ça reste quand même une bonne nouvelle.
Oui, tout à fait.
Mais ça, c'est aussi l'effet Loire à vélo, avec quand même trois gros loueurs de vélo qui font
de la réparation.
C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est pour les cyclistes au quotidien, c'est bien, c'est facile.
C'est facile, c'est accessible. Et Décathlon aussi.
Effectivement, nous, Vélo 41, on propose toujours cet atelier qui a aussi un vrai succès. Est-ce qu'on n'a pas pas préciser, ouais, bah, à propos d'ateliers, c'est qu'on en fait aussi dans les entreprises. Ouais, ouais. On se déplace dans les entreprises et c'est aussi très apprécié des salariés quand on vient faire une heure d'atelier
sur le temps du midi ou en fin de journée.
C'est ça.
Très bien. Et puis donc on est Blois est plutôt bien noté aussi plutôt en vert, donc du coup toujours sur ce Nutri-Score du vélo, donc en haut du tableau pour stationner son vélo en gare ou dans une station de transport en commun. Donc là pareil, on sent que le multimodal, comme on dit, a progressé et est plutôt bien développé sur Blois.
Oui, c'est-à-dire que on avait un garage vélo qui était limité à côté de la gare. Ouais. Maintenant, on a ce qui s'appelle la rotonde, qui permet d'accéder à la passerelle. Toute la partie basse, maintenant en parking à vélo, soit sécurisée, soit accessible à tous. Donc, c'est vrai que c'est un réel progrès. Maintenant, avec d'autres projets, puisque à Valin-de-Vessière, il va y avoir un garage à vélo, sécurisé aussi en bord de Loire. Donc voilà, ce qu'on pourrait regretter, c'est par exemple celui qui a été construit à côté de la Halle au Grain et un petit peu éloigné, un petit peu relégué dans un coin. Et ben c'est pas la bonne politique pour nous. Il faut que ce soit visible et non pas accessible. Et puis voilà, c'est ça, que ce soit visible. Mais néanmoins, ce qui nous manque à Blois, c'est les supports de vélos permettant de sécuriser les vélos, par exemple auprès de toutes les structures de sport. Les gymnases, si vous prenez le gymnase Tabarly, vous n'avez aucun support de vélo, avec pourtant un nombre de personnes qui viennent régulièrement, c'est très dommage. Et on va pousser pour que ça se fasse.
Je confirme que le gymnase Cabochon, avec qui nous partageons l'adresse ici à Studio Zef, n'est pas équipé non plus en stationnement de vélo. Donc ici, à 50 mètres de notre studio, effectivement, il y a le gymnase Cabochon. Et effectivement, il n'y a pas d'endroit pour mettre le vélo. Même si toute l'allée est plus facilement... On peut plus facilement poser son vélo à Cabochon que dans d'autres... en proximité d'autres gymnases de la ville.
On ne peut pas l'accrocher.
J'imagine, voilà, exactement. On continue... malgré tout sur ces résultats, avec donc le confort qui est estimé pour le coup très bon, moyennement favorable donc en D, mais quand même où les gens se sentent autorisés à doubler, à circuler assez correctement. Donc là pareil, c'est plutôt positif.
Oui c'est positif en partie. Par contre, on voit bien que il y a quand même encore du travail à faire sur l'entretien des itinéraires cyclables. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout qui soit réalisé, mais ensuite il faut les entretenir, éviter qu'il y ait très facilement des débris sur les bandes cyclables. C'est près du trottoir. Et aussi, ce qui a été remonté, c'est que quand il y a des travaux, il n'y a pas d'itinéraire cyclable de contournement, de renseigner.
Gros sujet en ce moment avec les travaux du futur pont piéton et cycliste, notamment à ce sujet-là.
Voilà. Je pense que ça va être un sujet au printemps si c'est toujours la même situation.
Vous détaillez ensuite, toujours dans ce baromètre vélo, donc les points verts, les fameux clusters. Donc on en a parlé, la rue du Bourgneuf, dont on a déjà pas mal parlé, le rond-point Médicis, à quelques encablures, pareil, de Studio Zef, de nouveaux aménagements qui ont été vraisemblablement très, très positifs. Donc on rappelle maintenant qu'aux abords du rond-point Médicis, les vélos et piétons sont prioritaires dans une couronne de 5 mètres avant le rond-point, d'une dizaine de mètres. Il y a une deuxième couronne, on va dire, autour du rond-point qui priorise les traversées de vélos et de piétons, et ça fonctionne bien, pas de retour négatif, d'accident fort déclaré sur ce nouvel aménagement.
Mais je dirais pas d'accident à ma connaissance, mais il est pas rare. Enfin, nous, on a régulièrement des remontées de cyclistes qui nous disent je suis obligé de vraiment me mettre sur les freins, parce que de temps en temps, on a un automobiliste qui ne respecte pas le cédé le passage pour les piétons ou les cyclistes.
C'est ce qu'on appelle, arrêtez-moi si je me trompe, un rond-point à la hollandaise.
Exactement.
Ouais. C'est une question d'habitude. On suppose que ça va progresser, ce genre d'aménagement.
On l'espère.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et que les automobilistes, pareil, vont prendre conscience de cette nouvelle façon
mais,
de...
Mais les ronds-points à la hollandaise ne peuvent être réalisés que sur des routes à faible trafic. Mm-hmm. On ne peut pas imaginer ça, par exemple, au rond-point de Cora.
Ok, ouais, évidemment. Donc on a parlé de la rue du Bonheur, du carrefour Médicis, du parc des expositions avec une belle piste cyclable qui le longe et le pont du Causson aussi. Moi je l'emprunte régulièrement ce pont du Causson quand je viens à vélo à Zef. Et effectivement une belle continuité, tout ça c'est des aménagements qui ont été mentionnés. Sur les points rouges donc d'Amblois par contre, voilà, les points d'inquiétude sont relativement nombreux avec notamment l'avenue Monoury, voilà le carrefour effectivement peut-être alors accidentogène, je sais pas, anxiogène, moi je l'utilise pas en vélo mais je ne doute pas qu'il soit un peu anxiogène pour les cyclistes, donc les croisements autour du boulevard Cité Unie et du pont Monoury.
Alors on a l'ensemble de l'avenue Monoury,
ouais,
qui est problématique. Vraiment problématique, mm-hmm, avec des bandes cyclables largement effacé, très dégradé, avec un revêtement qui est pratiquement impraticable en vélo. Et en plus, ces bandes ne font pas la largeur normale. Donc, c'est vraiment, on a 60 points rouges sur cette avenue Monoury.
Effectivement.
Mais en plus de l'avenue Monoury, on a au moins des bandes cyclables telles que j'ai décrites, c'est-à-dire non conformes. On a à partir du feu en direction, quand on va en direction de la chaussée Saint-Victor, ouais, une partie où il n'y a plus de bandes cyclables. Or, là, on a la possibilité, on a le pont des Cités Unies qui est dangereux. Mm-hmm. On attend vraiment depuis maintenant des dizaines d'années qu'il y ait un aménagement pour les cyclistes de réaliser à cet endroit-là. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop bouger, mais on va essayer de continuer de pousser dans cette direction. Par contre, il existe autour de ce qu'on a appelé le carrefour de Verdun la possibilité de passer en dessous du boulevard des Cités Unies.
D'accord.
Donc là ça rallonge un petit peu, il y a une petite descente, petite montée, c'est pas très confortable, mais en attendant
cette solution existe.
Or à partir de l'avenue Monoury et de, j'irai, si tout le monde voit, à partir de la pharmacie, là, on a carrément plus de bandes cyclables. Donc il faudrait au moins que la commune de la chaussée Saint-Victor, puisque c'est elle qui en est responsable, et Aglopolis, mettent une continuité de bandes cyclables, au moins pour rejoindre cette alternative.
En autre point problématique, que ce pont de l'avenue Monoury, le carrefour Jean-Laurin, alors est-ce qu'on peut le resituer, alors même pour les Blaisois qui connaîtraient le carrefour mais pas forcément son nom?
Ouais, c'est l'intersection entre la rue du Bourgneuf, l'avenue de Vendôme,
Et de Châteaudun.
L'avenue de Châteaudun. Donc là, des études sont en cours et ça devrait déboucher normalement assez rapidement, je pense.
Et puis ce rond-point donc, dont vous parliez, Christian, où il ne serait pas possible de faire les fameux ronds-points la hollandaise, donc le carrefour, le rond-point du centre du Cora, c'est celui-là?
Oui, le conseil départemental ne souhaite pas, ne veut pas, et je pense que c'est quand même logique que des piétons ou des cyclistes traversent à cet endroit-là une voie avec autant de trafic de camions, de voitures en double sens, donc à quatre voies. Mais nous, ce qu'on a demandé, est-ce que c'est pas possible, puisqu'on est capable de mettre, je crois, 18 millions dans un projet de passerelle sur la Loire, est-ce qu'on peut pas faire une petite passerelle pour les piétons cyclistes pour aller, puisqu'on a maintenant cette voie verte qui va jusqu'à Fossé, on pourrait à cet endroit-là rejoindre le centre commercial. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui travaillent le matin, des 5 heures pour certains, toute la journée, qu'il y a des personnes qui souhaitent y aller aussi pour faire leurs courses en vélo, qui n'ont pas forcément de voiture à leur disposition, et ce serait une passerelle permettrait une passerelle ou un tunnel,
Et puis dernier point problématique qui a fait la une des journaux cet été, le pont François Mitterrand. Est-ce qu'on peut y revenir un petit peu ?
Oui, alors ça, effectivement, ça fait de la une. On a fait Nouvelle Vélo 41 fait une contre-pétition qui a eu aussi un succès, puisque ouais. je crois qu'on a eu quelque chose comme 300 signatures. Donc là, maintenant, ce qui, à ma connaissance, les travaux ont commencé au niveau du côté Vienne. Ce qui va être fait en début d'année 2026, c'est un trottoir cyclable situé en aval sur le pont, donc côté Tours.
Ouais.
Et il sera bidirectionnel dans les deux sens, élargi de la largeur un petit peu plus que la largeur actuelle de la bande cyclable qui est ridicule, hein, qui est dangereuse, tous les cyclistes avaient peur. Les candélabres seront supprimés et là, du coup, on aura une largeur suffisamment importante pour les cyclistes pour être en bidirectionnel dans les deux sens.
Donc les vélos ne circuleront plus que d'un seul côté.
Absolument.
Que du pont, ce qui devrait résoudre évidemment pas mal de soucis et d'inquiétudes des usagers et usagères de cette voie.
Alors il restera juste un sujet à la sortie du pont.
Ouais.
Tout à fait.
Pour les vélos qui ne seraient pas dans le bon sens.
Souhaiteraient soit remonter vers la gare, soit repartir vers le centre-ville.
Et même la traversée de l'actuel passage piéton,
ouais.
côté Blois.
Ouais.
On a ce temps de passage des piétons, il est très court. Mm-hmm. Là, on peut imaginer beaucoup plus de cyclistes qui emprunteront cet itinéraire avec cette sécurisation. Et là, il va falloir... Peut-être que la synchronisation des feux permette aux cyclistes au moins de traverser le pont.
Ça me fait glisser gentiment vers la fin de cet entretien. On a évoqué beaucoup de sujets. La campagne électorale a commencé. Est-ce que vous allez demander ou est-ce que c'est plutôt les candidats qui vont venir toquer à votre porte pour discuter vélo, praticabilité des voies, comment ça va se passer avec ces documents très pratico-pratiques, ces données très, très fiables que vous avez pu compiler, comment la politique cyclable de la ville va être prise en compte dans la campagne qui arrive.
Alors nous allons leur soumettre un questionnaire
à tous les
candidats et nous présenterons en conférence de presse les résultats de ce questionnaire auquel auront répondu tous
public,
les candidats.
Les questionnaires que les candidats et ça ce qui montrera alors sans évidemment vous engager pour un candidat ou pour un autre, mais qui permettra aux cyclistes et aux électeurs et électrices de voir quels sont les priorités cyclables de chaque candidat par rapport à vos questions.
Exactement.
Très bien. En vous appuyant, j'imagine, sur les données que vous avez compilées. Le questionnaire sera fait d'après ce questionnaire. Eh bien, merci. Est-ce que vous voulez quand même apporter une conclusion à ce baromètre qui vient d'être édité?
Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que ce baromètre, il est vraiment important pour tous les cyclistes. Mm-hmm. Et on espère bien sûr qu'il y aura des éditions dans les prochaines années. Et donc nous, Vélo 41, on sera, je pense, encore plus actifs pour inciter un maximum de Blésois à répondre.
La dynamique est là, on le voit. Hein, il y a toujours une progression des répondants, etc.
Mais là, on voit qu'il y a une absence un peu des étudiants, alors qu'il y a beaucoup d'étudiants sur Blois. Mm-hmm.
Ce sera eux qu'il faudra aller chercher, oui.
On a une classe d'âge qu'on a eu un peu de mal à aller récupérer. Donc là, on fera certainement des efforts supplémentaires là-dessus. Et donc voilà, c'est vraiment un outil citoyen. En plus, c'était un outil qui est ouvert. Tout le monde a accès aux données. Il n'y a pas que Vélo 41, mais les institutionnels ont accès aux mêmes données que nous, et ça, c'est quelque chose de vraiment super. Quoi.
Les élus peuvent effectivement reprendre vraiment, intégrer les données, et ça a été fait même sur des documents d'Aglopolis ou de la ville de Blois. Donc les données sont vraiment en accès libre et aussi bien les élus que les techniciens des différentes communes peuvent s'en inspirer pour bâtir leur politique.
Eh bien, merci. On mettra ce document. Il est accessible sur votre site, au public,
oui,
tout ça.
Ouais. Il est accessible sur le site. Oui.
Eh bien, on n'hésitera pas non plus à le repartager sur la page de l'émission, donc de cette chose commune qui se termine. Merci Christian De Blaise et Elisabeth Housset donc d'être venus ici pour parler de ce baromètre vélo, donc pour Blois et le Loir-et-Cher de manière spécifique et même du national et du régional. Voilà, un peu à côté. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Merci à tous et à toutes. Les programmes continuent sur Studio DEF.